Bonsoir à tous fidèles auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou. C'est l'heure de votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Au menu de ce soir, le thème, le concept de renaissance culturelle, signification et apport dans le développement du Niger. La renaissance culturelle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les citoyens nigériens connaissent et comprennent bien ce que c'est que la renaissance culturelle? Sinon, pourquoi? En quoi la renaissance culturelle peut aider au développement du Niger? Quelles sont les valeurs culturelles nationales que promet le dit concept? Quelles sont les anti-valeurs qu'il bannit? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dandy Adamou, directeur général de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Et Issa Aye, sociologue et communicateur. Et nous avons en ligne avec nous Ibrahim Niandou, écrivain, homme de culture. Merci à vous d'avoir bien accepté de participer à cette émission au micro Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je le disais, nous parlons de la renaissance culturelle, ce concept promis par le gouvernement actuel du Niger et d'ailleurs l'un des axes clés du plan de développement économique et social PEDES 2017-2021. Pour concrétiser la vision de la renaissance culturelle en question, le gouvernement, à travers le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, a élaboré un programme de la renaissance culturelle pour une période de 3 ans. Alors, sans plus tarder, je veux d'abord vous proposer de suivre les avis de quelques citoyens avec lesquels nous nous sommes entretenus au sujet de la renaissance culturelle. Certains méconnaissent le concept et d'autres pensent connaître ce que c'est que la renaissance culturelle. Écoutons d'abord ceux qui ne comprennent pas le concept.
Vraiment, la renaissance culturelle, moi, en tant que moi, je ne connais pas la renaissance culturelle. Je ne sais pas ce que ça signifie. Parce qu'il n'y a pas une civilisation sur ça. Moi, je suis en train d'entendre qu'il y a la renaissance, mais je n'ai jamais su ce que ça signifie.
On a eu une renaissance culturelle. 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 On a eu une renaissance culturelle.
Voilà, vous venez donc de suivre des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la renaissance culturelle, ne sait pas ce que la renaissance culturelle. Ils se demandent si on fait allusion aux orchestres en parlant de renaissance culturelle. Ils se posent en tout cas un certain nombre de questions et ils pensent que c'est réservé à l'élite. C'est seulement l'élite, ceux qui sont allés à l'école, qui connaissent, qui comprennent ce qu'est la renaissance culturelle. Voilà, en gros, c'est que celui qui parlait en Zarma dit. Je commencerai par vous, directeur général de la renaissance culturelle et des arts et de la modernisation, je disais Dandy Adamou. Monsieur le directeur, vous avez écouté avec nous, ces deux, citoyens. Dites-nous, la renaissance culturelle, qu'est-ce que c'est?
La renaissance culturelle n'est rien d'autre que le travail que nous devons faire au niveau du ministère pour que les citoyens changent de comportement, pour que les citoyens adoptent des comportements et des mentalités qui sont favorables au développement de notre pays.
Et nous avons en ligne, je le disais, avec nous Ibrahim Niandou, vous êtes écrivain. Et qu'est-ce que vous entendez par renaissance culturelle en tant que, on va dire, citoyen lambda et en tant qu'écrivain? Pour vous, quand vous entendez renaissance culturelle, qu'est-ce que cela vous dit?
Pour moi, la renaissance culturelle, telle que je l'ai comprise, c'est l'ensemble des actions, l'ensemble du travail à faire pour permettre aux citoyens nigériens de trouver en eux-mêmes et de trouver dans notre culture les valeurs qui puisse impulser les changements au niveau individuel et collectif pour aller vers notre objectif d'un Niger nouveau. Pour moi, c'est ça que j'avais compris et je continue à croire que c'est cela et que c'était la meilleure réflexion, les meilleures perspectives qu'on puisse trouver pour le Niger.
Issa Aye, sociologue. Alors vous, en tant que sociologue, qu'est-ce que ça vous dit, la renaissance culturelle?
Je pense que la renaissance culturelle,
doit être, à mon avis, et je pense que c'est l'idée partagée, même au niveau du ministère de la Renaissance culturelle, doit être un concept qui tend à l'avènement d'un nouveau type de Nigérien. Un nouveau type de Nigérien porteur d'un certain nombre de valeurs socio-culturelles, mais les valeurs les plus nobles, qui font l'identité de l'homme nigérien, qui doivent nous permettre d'avoir un citoyen responsable, un Nigérien soucié d'un certain nombre de valeurs socio-culturelles. Et nous poursuivons. Nous allons écouter à présent le deuxième groupe de personnes interrogées qui pensent savoir ce que c'est que la Renaissance culturelle. Vous allez nous dire si elles ont bien compris le concept ou pas.
Ouais, bon, par la Renaissance culturelle, j'entends dire que les Nigériens ont laissé la culture pour s'accaparer d'autres cultures. Donc maintenant, on vient faire renaître la culture nigérienne pour que les gens sachent ce que ça veut dire, comment, quelle culture on pratique ici au Niger, tout comme ça. Selon ma compréhension, ça, ça veut dire. C'est que je sais que c'est bon de connaître sa culture, de valoriser sa culture surtout, de ne pas copier laisser que les autres amènent de l'extérieur. Il faut faire montrer notre culture pour que les autres nous copient et non le contraire.
La Renaissance culturelle, je sais qu'il y a un ministère qu'on a créé pour ça. Ouais. Ça veut dire vraiment, comment dirais-je, conserver notre culture. Exemple, moi, je suis toujours en train d'écouter Zabaya.
Zabaya,
ouais.
La chanson.
Oui, Zabaya.
Pour vous, donc, c'est ça la Renaissance.
C'est ça la Renaissance culturelle pour moi. Ouais. Sauvegarder notre culture. Okay. Ouais.
Dans mon entendement, contrairement à beaucoup d'avis, je pense que la Renaissance culturelle, ce n'est pas le fait de produire de la musique juste pour dire qu'on est dans la Renaissance culturelle. Ce n'est pas seulement lié à la musique ou bien aux productions culturelles, mais c'est un processus à travers lequel les uns et les autres, l'ensemble des citoyens, pourront transformer leur mentalité, leur façon de penser et adopter un comportement favorable au développement, au changement du pays qui nous est si cher.
Alors voilà, vous venez d'écouter avec nous ces citoyens qui pensent savoir ce que c'est que la Renaissance. Je donnerai tout de suite la parole au directeur général de la Renaissance culturelle pour une première réaction sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que la Renaissance, c'est écouter ou faire de la musique ou encore le retour à la tradition? Vous avez la parole.
Bien, merci. Vous avez vous-même classé les auditeurs en deux groupes, ceux qui ne comprennent pas du tout le concept de Renaissance culturelle et ceux qui pensent le comprendre. Je pense que vous avez fait un bon classement. Ce deuxième groupe, en tout cas, entre dans ceux qui ont, de notre point de vue, compris quelque chose à la Renaissance culturelle. Faire renaître la culture nigérienne, mais pas simplement la culture nigérienne. Faire renaître la culture dans ce qu'elle a de positif. C'est ça le grand enjeu. Il s'agit de faire recours à des valeurs nigérienne, mais des valeurs, vraiment, nous, quand on dit des valeurs, on n'a même pas besoin d'ajouter le terme positif, puisque quand on parle de valeurs, pour nous, c'est des normes, c'est des choses qui sont positives. Donc, dans ce qu'elle a de positif, la culture nigérienne, il faut faire ramener ça, mais c'est aussi s'ouvrir au monde extérieur et prendre des valeurs qui sont universelles et qui peuvent nous permettre d'avancer. Véritablement, c'est cela, et ce n'est précisément pas l'idée de encourager juste tout azimut la musique. Pour nous, il y a ça qu'il faut ramener, mais il faut considérer ça plutôt comme un outil de transmission de ces valeurs-là que nous avons identifiées. Donc, faire revenir la musique, très bien, mais pour transmettre des valeurs.
Des valeurs. Alors, nous avons en ligne avec nous Ibrahim Niandou, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, vous avez écouté aussi ces citoyens. Qu'est-ce que cela, quelle réaction ces propos vous suscitent à votre niveau?
Oui, la réaction que j'ai, c'est que, oui, effectivement, il y a ceux qui n'ont pas compris le concept. Il y a ceux qui croient l'avoir compris, mais qui ne l'ont pas en réalité compris. Il y a ceux qui l'ont compris. Et comme je vous disais, moi, je me classe parmi ceux qui croient l'avoir compris. Mais en vérité, la question pour moi, au-delà de la compréhension, c'est est-ce que je me le suis approprié? Et est-ce que tout ce qui pouvait être fait a été fait au niveau individuel? Et au niveau collectif, mm-hmm. pour que nous atteignions les objectifs assignés à ce programme de renaissance.
Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous vous êtes approprié ce concept? Est-ce que vous pensez que collectivement ou et individuellement, c'est quelque chose qui est compris par tous les Nigériens, accepté par tous les Nigériens?
Mais moi, j'écris depuis bien longtemps et je crois que c'est en alignement avec ma conviction que il faut que dans nos actions quotidiennes, dans nos mots au quotidien, dans nos comportements au quotidien, que nous puissions trouver dans notre culture, dans notre éducation, dans notre environnement national, les richesses, les valeurs. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire à travers mes écrits depuis bien longtemps et les romans qui sont aujourd'hui dans les librairies. Je crois qu'il y a eu un gros problème depuis que nous avons mis en exergue ce concept au niveau institutionnel. Je crois que nous n'avons pas fait tout ce que nous devions faire. Nous n'avons pas fait tout ce que nous devions et tout ce que nous pouvions même faire, et au niveau gouvernemental et au niveau des citoyens qui ont compris ce que nous avons à gagner dans la valorisation de notre culture.
Nous revenons au studio, monsieur le directeur général. Et si on parle de renaissance, cela suppose, à mon avis, quelque part, que l'on a perdu quelque chose qu'il faut récupérer. Vous avez un document qui catalogue des valeurs et des anti-valeurs. Si vous pouvez bien nous citer quelques-unes.
Bien, merci. C'est vrai qu'on a fait un catalogue vraiment de valeurs et d'anti-valeurs que nous avons mises en annexe dans notre document. Et Ibrahim Niandou vient d'évoquer quelques-uns. Si vous prenez la foi, nous considérons que la foi est une valeur cardinale. Mm-hmm. Puisque pour l'essentiel, si on a la foi, on peut tout faire. Mm-hmm. Nous considérons que la question de la solidarité est une valeur cardinale. Si nous sommes capables de développer des comportements solidaires, peut-être que certaines dérives n'existeraient même pas dans la société. Mm. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de ce qu'il y a assez de mendiants dans nos rues. Mm-hmm. Et je pense que si on avait su développer à outrance la solidarité, à travers par exemple la collecte de la zakat et à travers sa redistribution à qui de droit, peut-être que ceux qui sont nécessiteux ne se retrouveraient pas dans la rue. Mmh. Nous avons une valeur fondamentale sur la question de la parenté à plaisanterie. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas menacée, elle se développe de plus en plus, mais c'est une valeur qu'il faut qu'on conserve si on veut créer, continuer à garder la cohésion, l'unité nationale qui caractérise notre pays. Les Nigériens étaient jadis reconnus pour de grands travailleurs. Je ne dis pas qu'ils ont cessé de travailler. Aujourd'hui encore, les Nigériens sont de grands travailleurs. Mais le rapport qu'on a avec le travail, aujourd'hui, il est véritablement en recul. Mm-hmm. Donc, ces questions-là de travail, on ne peut pas développer ce pays si on ne se met pas en tête qu'il faut qu'on travaille. Mm-hmm. Ce sont des valeurs. L'unité nationale elle-même est une valeur. Mm-hmm. Elle n'est pas menacée chez nous, mais on doit travailler à la consolider.
Alors, et quelles sont les anti-valeurs?
Alors, les anti-valeurs, c'est tout le contraire de... C'est tous les comportements que les gens posent et qui sont en porte-à-faux avec la norme. Mmh. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui est valide et qui est dans la rue à quémander, ça, c'est une anti-valeur. Souvent, je me suis amusé à dire aux mendiants, est-ce que si vous devez retourner mendier dans votre village, vous allez le faire? Mmh. La réponse qui sort tout de suite, non, 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 là-bas, il ne peut pas mendier. Pourquoi quelqu'un ne peut pas mendier chez lui, mais il est capable, dès qu'il quitte chez lui, il est capable de le faire? C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle social là qui s'exerce au niveau de la ville et qui fait que les gens ils se disent, je ne suis pas connu, je peux me permettre de quitter la voie, personne ne me le reprocherait. Donc, regardez comment la ville de Niamey est extrêmement sale. Devant nos propres maisons aujourd'hui, moi je comprendrais qu'il y ait des dépotoirs, parce que les gens ont balayé chez eux, ils ont versé dans les dépotoirs. Mais je ne comprendrais pas que les devantures de nos maisons soient sales. Partout dans la rue, c'est sale. Ça veut dire qu'on ne s'occupe même pas de la propriété de nos propres maisons. Ça, c'est une anti-valeur qu'il faut qu'on combatte.
Et la question de la corruption, c'est une préoccupation?
C'est une préoccupation, une grande préoccupation, puisqu'on ne peut pas développer ce pays-là si on verse dans la corruption. La corruption, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour un travail que tu es censé faire pour le pays, si la corruption se développe, c'est que même si tu as une bonne volonté, tu ne peux pas le faire. Parce que tu auras corrompu quelqu'un qui t'a demandé de faire le travail avant de l'avoir. Et parce que tu l'as corrompu, tu ne disposes plus de suffisamment de ressources pour faire le travail. Donc c'est en cela que c'est une gangrène, c'est en cela que c'est menaçant pour le développement de ce pays. Et il faut qu'on le comprenne à tous les échelons. La renaissance culturelle, elle ne s'adresse pas seulement aux citoyens. Elle veut également travailler sur le comportement des dirigeants. Et c'est pourquoi nous voulons que les dirigeants soient ceux qui donnent d'abord l'exemple.
Nous donnons la parole à Issa Aïe, sociologue, je le disais, communicateur. En tant que sociologue, quelle lecture vous faites de l'évolution de certaines valeurs de la société nigérienne?
La lecture peut-être qu'on peut faire, il y a véritablement ce qu'on peut appeler la déperdition. Nous sommes en train véritablement de perdre un certain nombre de nos valeurs. Et je pense que le concept même de renaissance culturelle est venu après un constat. Comme tout de suite vous l'avez dit, si on doit renaître, c'est que quelque part on avait perdu des valeurs. Eh bien, ma foi, l'évolution du Niger dans les 4-3 décennies nous révèle véritablement que nous sommes en train de perdre beaucoup de nos valeurs, que le Nigérien est devenu assez paresseux, pour ne pas dire suffisamment paresseux. Le Nigérien n'a plus le goût ou l'amour du travail bien fait. La préoccupation de tous, c'est comment ce qu'on appelle s'enrichir par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les mécanismes. Et ma foi, nous sommes en train de perdre des modèles. Je me rappelle dans les années 80, si vous devrez demander à un enfant qu'est-ce que vous désirez être dans le futur, il vous dira sans embâche être un enseignant, être un professeur, être un docteur. Parce que c'est noble, parce que c'est des valeurs nobles. Mais aujourd'hui, j'avoue, 80% d'entre eux ne vont pas vous dire qu'ils veulent être des enseignants. Parce que c'est un secteur qu'on a dévalorisé. Du fait tout simplement que nous avons orienté la conception ou la mentalité de nos jeunes vers la recherche effrénée de l'argent. Peu importe la source, aujourd'hui vous êtes nommé à un poste, demain les gens vont s'attendre à ce que vous soyez déjà véhiculé. C'est de facto, quoi. Vous avez une manne, donc il faut en profiter.
Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ce genre de comportement? Est-ce qu'on peut expliquer cela?
C'est en vérité la richesse de la facilité.
Est-ce que c'est quelque chose qui nous viendrait d'ailleurs?
Oui, pas forcément d'ailleurs, mais je pense que c'est beaucoup plus la préoccupation de vouloir réussir. Réussir par le bien matériel. Parce que nous sommes dans un monde où l'économie dominante, c'est la conception de l'économie marchande. Ou l'exemple, la réussite, elle est beaucoup plus matérielle. Elle est liée à l'aspect matériel, aux conditions de vie matérielles de l'individu. Or, dans le temps, la conception, à travers même l'aspect qu'il vient d'énumérer, les valeurs culturelles et sociétales que nous connaissons, le matériel n'a jamais été en avant des valeurs. Or, dans le temps, ce qu'on considérait, c'est l'honnêteté. C'est la solidarité, c'est les notions de bravoure, de compétence. C'était ça qui était en jeu. Et de réussite, réussite sur le plan scolaire, réussite sur le plan culturel, réussite sur le plan du succès en fait.
Monsieur Ibrahim Niandou, si vous avez quelque chose à ajouter sur cette partie.
Moi je pense que ce problème-là que nous citons de corruption, de rapport avec les biens publics, avec l'incivisme, etc., c'est justement les problèmes que nous sommes censés pouvoir prendre en charge au Niger à travers cette planification, à travers l'opérationnalisation.
Nous allons poser la question au directeur général pour nous répondre. Monsieur le directeur, voilà, comme je le disais au début, vous avez en tout cas effectivement élaboré un document de programme Renaissance culturelle, un document établi sur 3 ans et qui est chiffré à quelques 39 milliards. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les actions phares qui sont prévues pour y arriver à la vision que vous avez évoquée.
Bien, avant d'en arriver, vous avez posé la question au sociologue de savoir comment est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces pertes de valeur. Il a donné son avis de sociologue. Je voudrais juste ajouter que on peut constater aussi que de plus en plus l'éducation familiale est en régression. Aujourd'hui, la famille n'est plus ce lieu où l'enfant est véritablement éduqué avant d'aller à l'extérieur. On constate une démission de ce point de vue-là. Et je pense que l'école aussi en est pour quelque chose, pour avoir abandonné là également certains programmes d'éducation comme l'éducation civique et morale, puisque c'est sur ça qu'on peut agir vraiment de façon pérenne. Si on veut que les citoyens développent des comportements, développent des réflexes de civisme, de patriotisme, de citoyenneté, il faut qu'ils l'apprennent dès le bas âge. Malheureusement, je pense que ces programmes-là ont été plus ou moins abandonnés. Sinon, par rapport à ce que nous avons programmé, je dois dire qu'on a retenu trois axes. Il y a un axe modernisation sociale, où il a été fait un relevé d'un certain nombre de défis sous forme de constats, sous forme de diagnostic, et comme vient de le dire l'écrivain, c'est la question de la démographie, la question de la scolarisation de la fille, la question du mariage forcé, la question de la mendicité, la question de l'unité nationale. Sur toutes ces questions, le ministère de la Renaissance culturelle n'est pas le seul acteur. Nous avons considéré qu'il y a des actions majeures qui doivent être mises en œuvre pour que la Renaissance culturelle soit une réalité. Et pour beaucoup d'actions majeures, si nous devons lutter contre la mendicité, par exemple, ce que nous ferons, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation. Mais un autre ministère travaillera à voir comment il va faire appliquer les textes en matière de mendicité. Donc, c'est l'ensemble des ministères, en fait, qui ont contribué à élaborer ce programme-là et à décliner des activités budgétisées pour 2019, 2020 et 2021.
Et des activités que les autres ministères pourront exécuter à leur niveau.
À leur niveau et qui seront mises sous forme de contribution à la mise en œuvre de la Renaissance culturelle.
Alors, donc, vous avez parlé de trois axes. Vous avez parlé de
Modernisation sociale. Rapidement, la modernisation politique, où on voudrait travailler sur cette question de corruption, sur cette question de rendre l'État davantage capable de collecter l'impôt qu'il investit dans le développement du pays. Et sur la question du rôle des partis politiques. Ce n'est un secret pour personne, nous en avons beaucoup. Si seulement chaque parti politique formait ses citoyens et ses militants à la citoyenneté et au civisme, on ne serait peut-être pas dans ces problèmes. Donc, on va s'interroger sur le rôle des partis politiques. Qu'est-ce qu'on va leur demander de faire sous forme de contribution à la mise en œuvre de la Renaissance culturelle, aussi des organisations de la société civile et des médias. Le troisième volet, c'est la question économique, puisque nos objectifs, c'est vraiment la modernisation sociale, la modernisation politique et la modernisation économique. Et sur la modernisation économique, on veut mettre l'accent sur les vertus du travail, voir comment, par exemple, avec le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, on peut mettre en branle un certain nombre de dispositifs incitatifs pour amener les Nigériens à davantage travailler. Comment on peut sensibiliser les Nigériens pour le retour au travail et au travail bien fait, comme l'a dit le sociologue. Et comment on peut booster l'entrepreneuriat avec, par exemple, le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. Essentiellement, ce que fera le ministère de la Renaissance culturelle, c'est vraiment utiliser un certain nombre de vecteurs pour véhiculer des messages. Ces vecteurs-là, ils sont bien connus. C'est la famille, c'est l'école, c'est la chefferie traditionnelle, ce sont les acteurs culturels, ce sont les médias. Ça, vous savez, ce document, il a été adopté il y a 2 semaines. Il y a un peu moins de 2 semaines. Il a été adopté en conseil de ministres. Bien avant, nous étions dans des activités. Nous considérons, par exemple, que la religion est un vecteur essentiel pour faire changer les mentalités. Et c'est ce qui explique qu'à un moment, nous avons fait venir une personnalité religieuse d'un autre pays qui a développé des réformes en se basant juste sur ce que dit l'islam, et qui sont des réformes de nature à moderniser la société, nous lui avons demandé de venir partager avec nous. Et ce jour-là, Oulema, comme nous, on était tous sortis édifiés sur comment on peut mettre en branle des mesures qui n'ont rien de contraire à la religion musulmane pour régler la question du mariage forcé, pour régler la question des divorces, par exemple. On était tous sortis édifiés. Ce qu'il avait dit, si on l'appliquait seulement, on aurait une société un peu plus modernisée, un peu plus saine, sans être en porte-à-faux avec la religion musulmane.
Bien. Je voudrais donner la parole au sociologue Issa Aye pour nous donner un peu sa vision. Vous avez entendu le directeur décliner un peu les différents axes sur lesquels ils veulent intervenir et comment. Et pour vous, quelle sera la meilleure façon, la meilleure approche pour atteindre l'objectif en termes de changement de comportement?
Oui, en termes de changement de comportement, ma foi, les axes ou les stratégies sont nombreuses. Je pense que la meilleure des stratégies, pour moi, va reposer d'abord sur l'éducation de base. Parce que la famille, quoi qu'on dise, constitue l'élément premier de la société. C'est au niveau des familles que l'éducation du civisme, que toutes les valeurs que la Renaissance culturelle est en train de vouloir mettre en place peuvent être inculquées à l'enfant. Lorsque l'enfant s'approprie ces valeurs, c'est à la limite de l'automatisme qu'il va les appliquer. Parce que tout simplement, au niveau de son foyer, on lui a interdit ça ou on lui a demandé de faire. À l'école, c'est une chaîne, ça a suivi. Eh bien, lorsqu'il sera opérationnel, autrement actif dans la vie sociale, il va répliquer ça. Parce que tout ce que nous ne sommes que le fruit d'un processus qu'on appelle celui de socialisation de l'individu. Donc, pour agir au niveau de ce processus de socialisation-là, il faut fondamentalement agir au niveau de la famille. Après la famille, c'est l'école. Après l'école, maintenant, c'est voir quelle participation les leaders d'opinion peuvent apporter pour sensibiliser les uns et les autres par rapport au dispositif ou au souci ou à l'objectif visé. Et après, maintenant, il y a l'État. Quoi qu'on dise, l'État doit pouvoir être en mesure de sanctionner. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas, pour ceux qui sont déjà appropriés le mauvais ou le contre-valeur, il serait difficile qu'ils puissent s'en départir. Mais dès qu'il y a la sanction, eh bien, ils vont commencer à... J'aimerais dire quelque chose. Par rapport à ce ministère de la Renaissance culturelle, moi, je pense que on doit, la direction générale, la déloger du ministère pour avoir une connotation non politique. Que cet aspect-là, la préoccupation-là, elle est nationale. Elle doit transcender les clivages.
Parce que ça donne cette impression politique ou connotation.
Quel que soit ce qu'on aura fait, tant que c'est un homme politique qui porte l'action, il y aura toujours des appréhensions. Il y aura toujours des suppositions. Mais lorsqu'on va décaler ça en forme d'institution, de la République, avec tout ce que vous pouvez avoir comme dispositif, eh bien, ça sera pérennisé.
Ibrahim Niandou, vous avez en tout cas écouté les deux. Rapidement, nous écoutons votre réaction avant de continuer.
Je suis parfaitement d'accord avec le sociologue sur les stratégies et avec monsieur le directeur général aussi. L'éducation sous toutes ses formes, formelle et tout ce qui est informel, éducation civique, sensibilisation, etc., en utilisant les médias, les artistes, aussi les organisations politiques et celles de la société civile, mais aussi en s'appuyant sur les élus et les conseils, parce qu'il peut y avoir des délibérations au niveau des conseils, les chefs traditionnels, et surtout la coordination avec les autres ministères. Je vais vous dire que, pour moi, monsieur le directeur, tout à l'heure, était en train de dire que c'est la validation du document, je crois, est récente et qu'il y a des choses en perspective. Mais moi, je pense que depuis 3 ans, on aurait pu faire beaucoup de choses. On aurait pu même faire l'essentiel. Parce que dans cette question-là, cette affaire-là, quoique l'argent est toujours utile et indispensable, le plus important, on pouvait le faire déjà à travers la synergie au niveau des acteurs. Je constate que au niveau des exemples, allons-y, parlons des exemples. Les exemples au niveau institutionnel, du plus haut niveau de la République, jusqu'au niveau des conseils. Pour moi, une des premières choses qu'on pouvait faire, c'était de donner l'exemple. Quels sont les changements dans le comportement quotidien que les détenteurs de pouvoir, les influenceurs, pouvaient donner, les exemples dans au quotidien pouvaient donner au niveau de lieu de travail, au niveau des rapports avec les citoyens, au niveau des rapports avec les biens publics. Je pense qu'on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. Par rapport à la question des exemples, je pense qu'on aurait pu avoir des rapports beaucoup plus assainis avec certains de ces acteurs-là, la société civile par exemple, et même avec les partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition.
Vous avez aussi cette impression qu'il y a une connotation politique qui empêcherait certains citoyens à accepter ces valeurs que promeut la Renaissance culturelle.
Bien sûr, il y a, si c'est maintenant que nous avons finalisé le document et que c'est maintenant que nous voulons véritablement mettre en œuvre, mais depuis 3 ans, qu'est-ce qui se passait? Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de regrets à certains moments en tant qu'acteur du domaine de la culture, des opportunités qu'on a laissées passer, des possibilités de valoriser les autres acteurs, les écrivains, les musiciens, les conteurs, par rapport à ce message, par rapport à cette éducation populaire sur le civisme, sur tous les mots dont on parlait depuis tout à l'heure. Mais au contraire, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une espèce de sloganisation, hein, de l'utilisation du concept de renaissance culturelle comme un slogan politique. C'est mon impression à moi. Et j'ai eu aussi l'impression à certains moments que des décideurs qui auraient pu donner l'exemple ont donné le contraire de l'exemple à faire. Parce que quand vous engagez à apporter le changement de cette nature-là, qui est assez profonde, vous n'avez pas le droit de donner certaines images, certains exemples, certaines phrases. Et j'aurais, à la place des décideurs de la République, obligé les premiers responsables, les membres du gouvernement, etc., à, par exemple, utiliser, de l'habillement issu de notre culture. Nous disons que voilà ce que nous voulons faire, mais nous devons aussi refléter pour donner l'exemple, parce que les citoyens nous regardent et les citoyens, dans beaucoup de cas, ils jugent ce qu'ils ont à faire en regardant la crédibilité de ceux qui sont en face, de ceux qui sont en train de dire.
Bien, nous revenons au studio pour donner la parole au directeur, justement. Il y a des aspects qui sont soulevés, sur lesquels je voudrais avoir votre point de vue. Le sociologue Issaé avait soulevé tout à l'heure le fait que la renaissance culturelle, aussi bien qu'elle soit, tant qu'il y a cette connotation politique où c'est une mouvance, ce concept, beaucoup de gens auraient du mal à l'accepter, auraient du mal à se l'approprier. Et il y a cet autre aspect soulevé par Ibrahim Niandou, notamment l'exemple, les dirigeants notamment qui doivent donner l'exemple.
Je dirais, comme l'a dit le sociologue, qu'on aurait pu penser faire une institution indépendante. Mais je dirais, comme dit un penseur, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Vous savez, quand on a fait le premier travail de vulgarisation, et c'est en cela que je m'étonne sur l'intervention de Ibrahim Niandou, qui semble dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on a fait durant 3 ans. S'il a véritablement suivi, et le ministère, il se rendra compte de ce qu'on a fait, beaucoup de choses pendant 3 ans. Et lorsque je parlais, j'avais dit que le document venait d'être adopté, mais avant, j'ai donné un exemple d'activité que nous avons menée. Donc, pour revenir à la question d'institutionnalisation, en septembre 2017, nous avons fait le travail de vulgarisation du premier draft de ce document-là. Nous sommes allés dans tous les chefs-lieux de région et c'est en ce moment que véritablement nous avions commencé à communiquer sur la renaissance culturelle. Nous nous sommes dit, tous les gouvernements qui se sont succédés ont parlé de changement de comportement. Maintenant, il y a un homme politique qui vient de matérialiser ça à travers un concept de renaissance culturelle. Nous, notre souhait est qu'on comprenne cette renaissance culturelle justement comme ce changement de comportement tamponné et qu'à la limite même, on veuille bien constitutionnaliser ça. Donc, le ministère, je ne pense pas trahir un secret, n'a aucun problème à ce que la renaissance culturelle soit érigée en une institution et à politique, parce que nous sommes convaincus, et c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes convaincus qu'il faut faire ce travail de changement de comportement. S'il y a un autre cadre plus approprié pour le faire, on ne verra aucun problème à ce que ce soit ce cadre-là qui le fasse.
Et l'exemple?
Donc, nous sommes tout à fait d'accord. Et les grands doivent donner l'exemple. Depuis qu'on est là pendant 3 années, là,
est-ce que ça s'est pris en compte
On a cessé de dire, il y a toute une action majeure qui dit développer la pédagogie par l'exemple. Et une des premières choses que moi j'ai faites quand je suis arrivé au ministère, c'était de proposer une communication que le ministre doit proposer à ses collègues sur un certain nombre de choses qu'on voudrait voir abandonner les membres du gouvernement. Cette communication a été présentée, elle a donné des fruits. J'ai eu en tout cas des retours comme quoi il y avait un certain nombre de choses qui avaient changé à l'interne au niveau du Conseil des ministres. Donc nous sommes convaincus qu'on ne pourra rien faire changer tant que ceux qui sont au devant, tant que ceux qui prennent le changement ne changent pas eux-mêmes et ne communiquent pas sur ce changement-là. Et mon idée, c'était de dire qu'on a adopté récemment le document, mais qu'en amont, avant même que cette adoption n'intervienne, on avait mené un certain nombre d'activités, y compris cette popularisation-là du premier document.
Issaé, comment peut-on optimiser l'adhésion des citoyens aux valeurs qui sont promues dans le cadre de la Renaissance culturelle?
Pour véritablement avoir l'adhésion de l'ensemble des citoyens, c'est comme je l'avais évoqué tout de suite. Moi, je pense que la première des choses qu'il faudrait faire, c'est vraiment institutionnaliser ça, faire dégager la direction générale vraiment au sein des ministères. Je sais de quoi je parle. Tous, vous savez que les Nigériens, aujourd'hui, la politique, elle est partie trop loin, au point où tout ce que vous êtes en train de faire a une connotation politique. Quelle que soit votre sincérité par ailleurs, très malheureusement, il y a des gens qui sont venus vraiment avec assez de sincérité, mais du moment où ils ont une casquette politique, on voit toujours derrière et une intention politique. Donc je pense que pour réussir d'abord, fondamentalement, c'est vraiment de revoir l'institution même, Renaissance culturelle. Et ensuite, il faut communiquer. Comme il l'a dit, il faut fondamentalement communiquer. L'action la plus moindre qu'elle soit, elle peut avoir un impact fondamental auprès de la société si on communique. L'autre aspect, je pense que c'est la prise en compte des leaders d'opinion, comme je le disais tout à l'heure, des leaders d'opinion, des musiciens, artistes musiciens, pour vulgariser davantage le document. Pour que les valeurs qu'on voulait transmettre ou qu'on voulait faire renaître puissent être transmises, ne serait-ce en filigrane, par ces artistes, les acteurs culturels, les artistes, que ce soit les hommes de médias et tous ceux qui s'en suivent. Donc, il y a des canaux de communication qui peuvent nous permettre de toucher le citoyen aux confins du pays. Mais tant qu'on ne va pas les utiliser, il serait très difficile. Si on va faire juste une caravane, sillonner les régions et puis revenir, ça ne va pas avoir d'impact. Oui. Mais tant que, par exemple, un artiste, je prends l'exemple juste d'un artiste, que vous considérez, que vous aimez, que vous êtes fan de lui, il vient, il fait un comportement, il adopte un comportement ou il transmet un message, je vous avoue que ça a toujours un impact sur les individus. Vous prenez un imam qui prêche, que vous êtes en train d'écouter, il donne un exemple, j'avoue que ça a un impact. Vous prenez un chef traditionnel qui vient à une assemblée, qui vient à une cérémonie, il proclame quelque chose ou demande d'adopter tel ou tel comportement, ça va avoir de l'impact. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain nombre véritablement des acteurs encore au Niger qui ne sont pas touchés par, malheureusement, la mauvaise politique, qui peuvent nous aider véritablement à véhiculer ces valeurs-là et à faire renaître ce pays-là.
Alors, nous donnons la parole à Ibrahim Niandou.
Merci. Ce que je veux dire, c'est que monsieur le directeur se rassure. Je trouve qu'ils ont effectivement, par rapport aux moyens, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai suivi de très près le ministère pour, par ailleurs, être un travailleur du domaine de la culture. Au-delà du rôle d'écrivain, j'ai coordonné plusieurs projets dans le domaine de la culture. Je sais de quoi je parle, je sais qu'ils font des efforts. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'ils n'ont ni les moyens de leur politique, ni le bon soutien par l'exemple des autres acteurs et qui doivent être des exemples. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai essayé de regarder et je trouve que tous ces conflits inutiles, on aurait pu faire économie de tous ces conflits avec société civile, etc., en essayant un autre rapport. C'est de cela que je parle quand je parle d'exemple. Un autre rapport d'un autre type de gouvernance. C'est très facile de dire quelqu'un m'a giflé, je vais le gifler. Mais quand on dit qu'on veut changer, on veut trouver dans nos valeurs, c'est que c'est autre chose qu'il faut donner comme réponse à celui qui menace ou celui qui gifle, surtout si c'est le plus faible. Je vais donner l'exemple. Un ministre de la République dit à la télé que on a un moyen de gagner de l'argent sans rien faire. Ce n'est pas un bon exemple. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'argent facile. Ce sont des exemples, au moment où ces choses sont arrivées, qui m'ont fait mal en tant qu'éducateur des jeunes, en tant qu'homme de culture, qui font mal parce que ça met à terre les efforts de beaucoup de gens. Et l'autre chose que je veux dire, l'acceptation de la critique, d'où qu'elle vient, surtout quand elle vient des citoyens. Moi, je pense qu'il faut arrêter les rapports avec les rapports conflictuels avec les acteurs du type du domaine de l'éducation, du domaine des médias. Les médias privés, ce n'est pas des ennemis de la République. Ils disent peut-être des choses qui ne plaisent pas, mais ils disent des choses, et c'est, ça, c'est la liberté d'expression. Ça procède, ça rentre dans le domaine de ce dont nous parlons. Parce que ce sont des acteurs qui peuvent éduquer, ce sont des acteurs par lesquels on est obligé de passer pour éduquer. Donc, assainissons les rapports avec ces médias, avec ces acteurs de l'éducation, avec ces artistes, avec ces autres ministères. Parce que je sais aussi que la coordination avec les autres ministères n'est pas aussi aisée que ça pour le ministère de la Renaissance culturelle par rapport à ces questions.
Et donc,
je pense que, et ça, ce n'est pas forcément des questions d'argent. C'est des questions qu'il faut, prendre en charge. Je sais que le ministère, tout seul, ne peut pas faire ça, mais le ministère doit pouvoir travailler avec les autres niveaux de pouvoir pour que ces autres acteurs puissent être, se sentir concernés et s'impliquer et s'approprier de cet engagement-là et avancer. Voilà.
Et c'est sur ces mots que prend fin le forum de ce soir, la Renaissance culturelle au Niger, signification et apport du concept dans le développement du pays. Nous étions en compagnie du sociologue Issa Aye, du directeur général de la Renaissance culturelle des arts et de la modernisation Dandy Adamou et de l'écrivain Ibrahim Niandou. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.